France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La fête nous occupe cette semaine en ce début de mois de décembre qui se termine par les fêtes. Nous voici arrivés à un épisode assez logique, lendemain de fête et gueule de bois. Les fêtes ont une fin. Et celle-ci n'est pas toujours agréable. Le lendemain de fête est même peut-être le paradigme de la retombée après l'excitation et la joie. Même si l'on a été sobre, quelque chose d'un peu mou et pénible se profile, le retour à la normale. Quant à la gueule de bois, elle évoque volontiers le personnage mythologique d'Icare qui, après s'être échappé du labyrinthe grâce à ses ailes de cire et après un vol grisant où il s'est trop approché du soleil produisant la fonte de la cire, chute mortellement. Y a-t-il des fêtes infinies qui échappent à cette chute du lendemain? Et si ce n'est là qu'un fantasme, à quoi ressemblent les tentatives de le réaliser? Quelle est la vie de ces fêtards sans interruption qui défient les rythmes sociaux ordinaires? Peut-être que la sagesse craignant la retombée est plus cohérente quand même lorsqu'elle refuse fondamentalement la griserie festive. Alors se pose une autre question. Cette éthique de la maîtrise parfaite ruine-t-elle tout à fait l'idée de fête, ou bien en sauve-t-elle quelque chose malgré tout? Bonjour Véronique Naumgrapp.
Bonjour.
Ravie de vous retrouver. On adore quand vous venez nous raconter plein de choses dans cette émission, analyser mille choses. Vous êtes anthropologue des mondes contemporains, curieuse de tout et notamment de l'ennui et de l'ivresse sous toutes leurs formes. Et bonjour André Comte-Ponville.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, auteur de nombreux essais. Depuis votre traité du désespoir et de la béatitude, dont le premier tome était consacré au mythe d'Icare en 1984, vous ne cessez de réfléchir à une sagesse pour aujourd'hui, faite de lucidité et de modération. Je renvoie vers notre site pour toutes les références de vos ouvrages à tous deux. De toute façon, nous allons en parler, nous les citerons au cours de l'émission. Une émission que je vous propose d'entamer avec une jolie scène de lendemain de fête dans le film Nuit d'ivresse de Bernard Noer en 1986. Jacques, incarné par Thierry Lhermitte, a manifestement fait beaucoup de promesses la veille dont il ne se souvient pas du tout.
Tu verras ta tête. Tu m'étonnes avec tout ce que t'as avalé hier soir.
Non mais attends un instant, j'ai l'impression de devenir fou là. Qui je suis?
Jacques, la gueule de bois que tu payes.
Attends, je vais boire du café, faut que je me remette les idées en place, ça va trop vite.
Justine a été sciée quand j'ai raconté.
C'est qui ça encore?
Mais enfin, Justine, tu sais, ma sœur, la grande, là.
Ah oui.
Elle voulait pas me croire quand je lui ai annoncé qu'on allait se marier.
Tu t'es brûlée?
Sérieux, c'est fort. Bon, arrête, Nicole, une seconde.
Nicole. Mais enfin, c'est pour Nicole, moi.
Et pourquoi c'est pas Nicole?
Parce que c'est Fred. Fais pas me dire t'as oublié.
Non, j'ai pas oublié du tout ça, mais alors, attends, assieds-toi parce que j'ai un truc à te dire. Non, j'ai un truc à te dire, mais je te préviens, c'est pas marrant.
Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Jacques? Je te reconnais plus, moi.
Mais moi non plus, je reconnais plus personne. Bon, faut que je te parle sérieusement.
Qu'est-ce qu'il y a?
Hier soir, j'étais ivre mort, tu t'en es rendu compte, certainement, hein?
Est-ce que t'es rigolo quand t'es bourré?
Oui, alors tu vas voir, agent, je suis beaucoup moins drôle. Alors, ce qui se passe maintenant, si tu veux, c'est que j'ai peur qu'il y ait une espèce d'énorme malentendu. Je me souviens plus de rien.
C'est pas grave, ça.
Non, tu comprends pas, quand je dis rien, je veux dire vraiment rien du tout. C'est-à-dire que je sais pas ce que j'ai dit, je sais pas ce que j'ai fait, c'est le trou noir.
Et vous entendez, face à ce Jacques, Thierry Lhermitte, un personnage incarné par Josiane Balasko. Véronique Naumgrapp, le trou noir, est-ce que c'est une caricature? Ou est-ce que c'est une belle expression et juste, vous qui connaissez bien les moments d'ivresse pour les avoir étudiés et les chutes?
Oui, c'est une expression qui est un peu un cliché, qui est à la fois juste et donc on retombe, oui, dans le réel, dans le sérieux, tout ça. Mais il me semble que avec l'idée de lendemain de fête, voire de gueule de bois, on fait appel à au fait que c'est une mémoire le lendemain. Et il y a double mémoire. Il y a la mémoire du corps, un peu floue, que s'est-il passé, une mémoire de ce qu'on a oublié, une mémoire brouillée, opaque, de que quelque chose se serait passé. Mais par ailleurs, il y a aussi les autres. La fête, c'est quelque chose qui est lié, qui est comme la musique. Ça se déroule dans le temps, c'est une mélodie. Donc ça commence, ça s'accroît et ça décroît jusqu'au lourd sommeil qui peut être la clôture comme un point à la ligne. Et le début de la fête en l'aspect cérémoniel de la fête, le mariage à l'église, le couper le ruban, le 14 juillet, le défilé, le côté cérémoniel de la fête, il est fait pour être mémorisé, pris en photo, filmé, et là, il n'y a pas de lendemain, c'est même le côté cérémoniel, il est diurne, et il s'adresse au monde diurne du lendemain, et on se souviendra du mariage, et c'est la fête aussi, et c'est l'argument de la fête, parce que deuxième moment, il y a trois moments, de la danse, des rires, du repas, même après l'enterrement. Et à ce moment-là, commence une espèce de glissement, mais il y a encore le code, surtout pour les danses. Même les danses populaires, si vous ne savez pas danser la cueca au Chili, vous ne pouvez pas être élu. C'est des danses sophistiquées, même les danses de folklorique bretonne. Et ça, il y a encore un code, une surveillance, les parents sont encore là, toutes les générations. Et il y a le troisième moment, qu'on pourrait appeler carnavalesque, mais peut-être avec un cas comme Sophie, génial, à Dunkerque, Carnaval avec un K, film absolument génial. Et ce troisième moment est très particulier. Il y a à voir à fête, quand vous dites lendemain de fête, c'est le lendemain qui est important. Il y a la nuit. Et dans la nuit, les choses sont différentes et quelque chose se passe qui est décodé, décadré, qui n'a plus rien à voir avec le jour. Le jour, on fait attention à pas trop dépenser d'argent, là, pas, au-delà des bandes, pas de limite. Le jour où il faut, tout le temps est instrumentalisé, il faut faire ceci, pour cela, faire ses courses, aller au travail, etc. Là, à chaque instant, on dit qu'est-ce qu'on fait? Les jeunes qui sortent, qui sont à ce moment-là, où on va? Au bord de la mer alors qu'on est à Paris? Quelle fugue? Quelle idée? On monte en haut dans le cimetière, grand lieu festif de ce troisième mi-temps de la fête, bien sûr, en haut d'un immeuble. Et c'est le moment décadré, très festif au sens de Bakhtine, au sens de, voilà, au-delà des bandes plus limites, et qui s'invente. Et ce troisième moment, en réalité, qui est celui aussi des sorties juvéniles, où il n'y a pas les premiers moments, où il n'y a pas ce bal, où il n'y a pas de code.
Il y a toujours la nuit, dites-vous.
La nuit.
Vous êtes certaine de ça.
Le temps courbe de la nuit, où on s'enfonce, et ça, la nuit peut durer trois jours, mais le temps courbe de la nuit, et ce temps-là s'ouvre sur de la non-prévision. Les jeunes qui sortent disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Et cette non-prévision fait qu'on va être responsable de ce qui va se passer. Parce que soit elle est réussie, vous savez, comme ces chants, ces danses andalouses, soit il y a le duende, soit il n'y est pas, soit il y a la magie de la voix, et quelque chose se passe où tout le monde a les poils qui se dressent dans le dos, et soit il se passe rien, et l'ennui menace la fête. Et c'est ce moment festif, puisque l'ennui, c'est la solitude, c'est ne pas adhérer à ce qu'on fait, c'est se traîner dans la bande, vous ennuyer, etc.
Oui,
donc ce troisième moment est d'autant plus important pour le lendemain, pour la deuxième mémoire, la mémoire du corps, qu'il s'invente, il est lié à des prises de risques et à l'ivresse qui n'est pas seulement celle des psychotropes, mais qui est celle aussi de la nuit étoilée, des lumières d'un temps différent, d'un monde différent nocturne. Et là, on en est responsable. Et là, le matin, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais c'est le moment préféré d'André Comte-Sponville, le matin, quand vous vous réveillez, n'est-ce pas?
Non, j'ai des matins plutôt un petit peu difficiles.
Ah, j'ai cru que vous aviez dit à notre
équipe
avant.
Mais j'aime bien les lendemains de fête, par contre.
Ah, alors racontez-nous ça, si vous voulez bien.
Il y a pire qu'un lendemain de fête, c'est la veille de la fête, quoi.
Vous trouvez?
On est début décembre, et l'angoisse monte, il va falloir faire semblant d'être heureux le 25, le 24.
Mais ce ne sont peut-être pas de vraies fêtes.
Le 31,
fêtes,
faire la fête à je ne sais combien on sera. Moi, j'aime bien les lendemains de fête parce que je n'aime pas les fêtes.
Enfin, voilà.
J'ai horreur des fêtes de Noël et du Nouvel An.
Oui, alors celles-ci sont un peu particulières.
Mais à cause de l'hyperconsommation absurde, à cause de ces signes, de ce cérémonial que vous disiez, où on fait semblant d'être heureux en famille, y compris quand on ne l'est pas, etc.
La famille,
et puis,
c'est autre
en venant,
chose
je dis, il y a quelque chose. Pourquoi est-ce que j'aime pas les fêtes? Parce qu'on ne peut jamais faire la fête tout seul. Alors, quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul, déjà, ça m'inquiète un petit peu. Vous savez ce que disait Rilke dans les lettres à un jeune poète? Dans la mesure où nous sommes seuls, l'amour et la mort se rapprochent. Eh bien, quand on a la fête où on n'est jamais seul, on ne peut pas faire la fête tout seul. On oublie la solitude, on oublie la mort, et on fait semblant d'être heureux. Et c'est tout le contraire, au fond, de ce que j'aime. Je crois que j'aime trop la vérité pour avoir besoin d'oublier cette vérité. Oublier quoi ? Bah, qu'on va mourir. Autrement dit, la fête, c'est un divertissement au sens pascalien du terme, au carré. Voilà. C'est quoi le divertissement pour Blaise Pascal ? C'est tout ce qu'on fait pour oublier l'essentiel, à savoir le peu qu'on est et la mort qui nous attend. Alors, ça peut être du travail, ça peut être du loisir, et au maximum, c'est la fête. Voilà. On va oublier pendant une heure, une nuit, deux nuits, on va oublier que nous sommes mortels. Et au lendemain de la fête, on se réveille, c'est la vraie vie qui recommence. Et pourquoi j'aime pas la fête ? Parce que j'aime la vraie vie, et effectivement. Et je me méfie de tout ce qui nous sépare de la vérité de vivre.
Vous savez, André Comte-Sponville, je voudrais juste poser une question, parce que je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent croient que vous êtes un philosophe du bonheur. Vous savez à quel point on met ce qualificatif philosophie heureuse à votre œuvre. Et en réalité, alors peut-être que ça a changé, je ne sais pas, mais vous êtes un philosophe du désespoir.
Oui.
Mais je sais bien que vous voulez faire en sorte que nous soyons quand même les moins malheureux possibles dans la lucidité, mais vous êtes très très loin d'une philosophie du bonheur dans ce qu'il peut avoir d'intense, de jouissif. C'est pas du tout ça, votre
non,
affaire.
Non, parce que je pense que mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Voilà. Pourquoi philosophie du désespoir ? Mais parce qu'il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine, du moins pour les athées. C'est quoi ? Ben, on va tous mourir. Voilà le point de départ.
Et il faut y penser toute la journée.
Non, pas forcément.
Et la nuit aussi.
Mais en tout cas, il ne faut pas faire semblant de l'oublier. Et la leçon des grandes écoles de sagesse spécialement matérialistes, c'est que, un, on va tous mourir, deux, c'est pas grave puisque la mort n'est rien, trois, raison de plus pour profiter de la vie le mieux qu'on peut. Voilà. Et donc, entre la conscience de la mort et l'amour de la vie, il n'y a pas à choisir, les deux vont ensemble. C'est toute la sagesse de Montaigne, quand il dit que philosopher, c'est apprendre à mourir, ce qu'il emprunte à Platon, mais lui le prend en un tout autre sens. Il s'agit d'apprendre à vivre en vérité. Et donc, le désespoir et l'amour de la vie vont ensemble. C'est ce que disait Camus dans le mythe de Sisyphe. On ne peut pas penser l'absurde sans avoir envie d'écrire un traité du bonheur. Eh bien, ce que Camus appelle l'absurde, moi je l'ai appelé le désespoir, parce que je crois que c'est un mot plus juste en vérité. Et quand on pense le désespoir, il est difficile de ne pas avoir envie d'être heureux pendant le temps qui nous reste. C'est la leçon d'Épicure, c'est la leçon de Lucrèce, c'est la leçon de Montaigne, c'est la leçon de toutes les écoles de sagesse qui ne sont pas religieuses. Voilà. Et donc la lucidité et la joie vont ensemble. C'est l'esprit de Clément Rosset aussi dans la force majeure. Alors qu'à l'inverse, tous ces efforts pour faire semblant d'être heureux, pour être optimiste, aller au bout de ses rêves, tout ça me paraît tellement mensonger. Alors j'en ai parlé. Il y a aussi ça qu'il faut dire pour être absolument honnête. C'est que moi, mon rapport à la fête et à l'ivresse, il passe par ma mère. Ma mère, qui était une grande dépressive et une alcoolique, n'était gay que quand elle avait un peu bu. Le problème, quand j'étais petit, c'est que je voyais bien que quand elle était gay, ça sonnait faux. C'était du théâtre, du chiquet, du semblant. Alors qu'à l'inverse, quand elle était malheureuse, quand elle me pleurait dans les bras, ça sonnait tragiquement vrai. Et donc, moi, j'ai grandi dans le malheur de ma mère avec l'idée qu'au fond, que la joie était du côté de l'illusion, du semblant. Et qu'à l'inverse, la vérité était du côté de la tristesse. Donc j'étais mal parti dans l'existence. Heureusement que j'ai lu des grands philosophes qui disent exactement le contraire. À savoir que c'est l'illusion qui rend malheureux, parce que toute illusion mène à la désillusion, et ma mère en est morte, elle s'est suicidée. Alors qu'à l'inverse, c'est pas forcément la vérité qui mène à la joie, mais en tout cas, face à la vérité, on peut prendre sa vie à bras-le-corps, essayer de faire ce qu'on peut pour être le moins malheureux possible, le plus heureux possible. Et le pire, c'est que ça marche, c'est-à-dire que je ne suis pas un homme malheureux. Je ne suis pas un philosophe du bonheur en bleu et rose, mais je pense en effet que mieux vaut être vivant que mort. Et on s'en rend d'autant mieux compte qu'on accepte l'idée de mourir un jour.
Alors, reconnaissez Véronique Naumgrapp que nous vous avons mis un invité pour vous accompagner, qui a de sérieuses objections à tout ce qui vous intéresse, c'est-à-dire les envies d'évasion, les désirs d'illusion, le festif, tout ça, ça vous passionne, vous pensez que c'est ça vraiment qui dit en effet quelque chose de notre détresse, mais qui est beau. Et voilà André Comte-Sponville qui vous dit non, tout cela, c'est du chiquet.
La question de la mort. Quand on fait l'étude des champs à boire, depuis qu'ils existent, mettons en France, tous disent c'est parce qu'il y a la mort, un jour, que ce soir, on oublie tout, c'est-à-dire qu'on investit le présent et qu'on va boire. Et mieux vaut le vin d'ici que l'eau de là, comme disait Pierre Dac, je crois. Oui. Et donc, cette espèce de philosophie minimale... Alors, je prends le point de vue éthologique, je respecte beaucoup ce que vous avez dit. Et bien sûr, sur le désespoir, je suis complètement d'accord. Et le désespoir et la valeur de chaque jour qui passe, etc., à condition de ne pas la noyer dans des illusions, d'accord, et des illusions dont la fête ferait partie. Mais du point de vue... de l'ethnologie de la mondialisation, de l'ethnologie des mondes contemporains, on constate que les formes festives, sous des manières différentes, mais même la manière, j'appelais la troisième manière, au-delà des bandes, pas de limite, le troisième moment que j'appelle nocturne de la fête, où des risques seront pris, même ce moment-là, on le retrouve dans des sociétés extrêmement différentes entre elles, et pas seulement occidentales. Et pourquoi, si c'est tellement ennuyeux, embêtant, etc. Donc je ne vais pas reprendre tout, il y a plein d'études, c'est pourquoi les solstices sont liés, etc. Pourquoi les fêtes et les moments d'excès festifs sont aux grands moments qui marquent les biographies, la fin de semaine, les mariages, les deuils, les solstices, etc. Le passage de la ligne, il y aurait beaucoup les trois jours dans le nord de non-nuit justement. Pourquoi ça a bien un sens. Et ces moments-là, ils sont collectifs. C'est-à-dire que vous respectez l'individu solitaire, le philosophe, qui regarde l'horizon de sa propre vie.
Mais non, il défend le bonheur aussi, un certain
et qui
bonheur.
Dit, oui, et qui
un
dit...
Un bonheur de modération, et surtout, enfin, ce que j'entends, je pense que l'objection est encore plus difficile... pour qui aime la fête dans ce qu'elle a... Parce que, au fond, ce que vous dites, c'est que le pire, c'est de chuter après les grandes illusions festives. Vous préférez, je crois, c'est ce que je crois entendre, André Comte-Sponville, que l'on soit toujours dans la modération.
Non, pas forcément.
Ah bon, mets à coup
de
pas.
Allez, au bout de mon argument, parce que
j'avais un argument. La seule fois où j'étais vraiment sous, vous avez 22 ans, par là... Quand je me suis réveillé, que la vraie vie recommençait. Et là, ça devenait vraiment intéressant. Donc, non, je suis. Et c'est pas l'ivresse qui me gêne. Moi, en plus, j'adore une légère ébriété, pour tout vous dire.
Oui, moi
mais
aussi.
On peut pas faire la fête tout seul. On peut pas faire la fête à deux. Alors ça, c'est très intéressant parce que à deux, on peut avoir un repas d'amoureux, on peut faire l'amour, etc. Mais c'est pas la fête. Et donc, quelque chose qu'on ne peut faire ni tout seul ni à deux. Je soupçonne un effet de groupe qui m'inquiète toujours un peu. Je n'aime pas les foules, je n'aime pas trop les rassemblements, sauf éventuellement un militant, une manifestation. Mais je me souviens avoir accompagné mes garçons à un match de foot. L'ambiance des supporters dans un match de foot, c'est le contraire de ce que j'aime. Les passions s'additionnent. On a le sentiment que les intelligences se soustraient. Il y a de plus en plus d'affects, de moins en moins de raisons, de plus en plus d'enthousiasme, de moins en moins de lucidité. Et moi, j'aime la lucidité. Encore une fois, mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Mieux vaut, bien sûr, une vraie joie. On est d'accord là-dessus, vous voyez. Mais quelque chose qui a besoin du groupe, qui a besoin des autres pour exister, j'en soupçonne en effet toujours une part d'illusion. Alors vous avez raison, Véronique, ça existe dans toutes les civilisations.
Non, mais j'aimerais expliquer ce qui s'y joue.
Il y a des gens qui restent un peu réticents face à ça.
C'était mon objection.
Vous aurez le temps. Je voulais juste qu'on entende bien l'objection pour être sûr que vous ne répondez pas à côté du problème le plus aigu.
Je serai, et bien évidemment, un peu à côté puisque c'est la question donc du groupe. Et on constate qu'à certains moments, ce mode de présence sociale du groupe, d'une communauté au monde, choisit la nuit, la dilapidation, l'ivresse, tout ce qui est irrationnel et un peu dangereux, et avec cette question des transgressions et des deux frontières de la transgression, jusqu'où le monde festif supporte d'aller trop loin. Il y a la deuxième frontière, et là il y aurait vraiment une vraie guerre, ou une vraie, pendant la fête, trop de violence, etc. Donc ce troisième moment est dangereux, et il est collectif. Mais ce que vous oubliez, c'est que, et prenons par exemple les premières nuits blanches des adolescents qui sortent de l'enfance. Il y a la question de sortir dehors, de sortir à la fin de l'enfance, de sortir de sa maison, de l'entre-soi, de la sphère familiale, et d'être dehors dans le monde, un monde qu'on comprend pas bien. Il y a la question du ciel étoilé, de la question du monde qui se pose à la sortie de l'enfance. Et ça, la première nuit blanche, les rires, les vedettes, les copains. Il y a toujours un qui en appelle nounours parce qu'il est un peu trop gros. Il faut voir ce que c'est qu'une bande de jeunes. Il est l'humour, les réflexions, et les, même les danses, c'est compliqué. Et même pendant ce temps-là, s'inventent des manières, des lieux qu'ils inventent et des formes de d'inscriptions sur les murs qui ont gagné tout l'hémisphère sur le béton des grandes cités, dans les interstices et les jeunes errants festifs qui les ont inventés. Ils inventent de la musique. Il s'y passe des choses qui ne sont pas du tout des choses, mais surtout, et c'est le point, ce qui se joue dans la bande qui commence à rentrer dans la nuit festive. Et on le voit aussi dans les films, les romans, c'est que les distances sociales entre les familles, les parents, dans le village, ils sont tous différents, ils sont tous de milieux différents, mais ils sortent ensemble. Et là, il y a un danger, parce que et prenons aussi par exemple une usine, il va y avoir la fête, mais là, si le patron se saoule la gueule et roule dans son vomi devant les ouvriers, ça va pas être bon pour lui, il faut qu'il se protège, il prend des risques. Et ce qui est en jeu dans la fête, dans les membres juvéniles qui rentrent dans la vie adulte, hein, c'est les distances sociales, et l'ivresse les menace. Et après, ça crée des amitiés, des liens un peu stupéfiants. Et la deuxième chose, c'est l'humour et l'invention. C'est énorme dans la fête, il n'y a pas que l'ivresse, il n'y a pas que les lumières aussi sont enivrantes. Un feu d'artifice est un peu psychotrope, c'est pour ça que c'est utilisé. Mais la musique, la danse est roulée par terre de rire. Et après, l'invention dans la bande festive, à un moment, il dit qu'est-ce qu'on fait? Et celui le dominant qui est à la fois le plus bu et qui est le moins saoul, il dit allez, on va rentrer dans ce cimetière qui est un haut lieu, donc les lieux où la société s'absente, les plages. Aller à la plage à 3h du matin, monter en haut du mur, les conduites de vertige, et ça, on a beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de données là-dessus. La question du vertige et de monter en haut du parapet du pont quand il y a de la glace, ou monter en haut, il y a des sources. J'ai vu un jeune monter en haut du clocher avec sa bière, etc. Donc la question du vertige. Donc le monde de la fête n'est pas du tout un monde où on régresserait à une chose inquiétante à consommer comme des bœufs, ce que la société veut nous faire consommer et abdiquer sa noblesse interne, intime. C'est au contraire un moment où se rejoue le fer social. Et sans doute, ça joue un rôle après dans la question de la violence non exprimée, de la cascade des mépris sociaux dans le monde diurne, normal, et l'espace festif vient très exactement casser ça. Et ça joue un rôle au niveau collectif, au niveau individuel, c'est très dangereux, par exemple, de trop boire ou de trop faire la fête, il y a des accidents. Mais au niveau collectif, certainement, quelque chose se joue de la violence sociale, des mépris entre les classes sociales différentes.
Vous allez bien sûr encore répondre, André Comte-Sponville. J'ai l'impression que tout ce qui fait société, crée du lien social dans la fête, c'est précisément cela qui vous inquiète. Mais vous préciserez, je ne veux en rien réduire vos positions respectives. Mais puisque vous avez parlé de la peur, du fait que ce n'est pas que positif et enivrant les moments festifs, mais il y a aussi la peur des autres, la peur de paraître dans une situation honteuse, d'avoir trop bu, ou bien des peurs plus saisissantes encore. Écoutez Montaigne, que vous avez cité tout à l'heure, André Comte-Sponville, dans le livre 2 des essais, chapitre 2 sur l'ivrognerie. Il dit que pour les femmes, c'est dangereux.
Voici ce que m'a raconté une dame que j'honore et estime fort. Près de Bordeaux, vers Castres où elle habite, une villageoise, veuve et réputée chaste, sentant les premiers effets de la grossesse, disait à ses voisines que si elle avait un mari, elle se croirait volontiers enceinte. Mais le soupçon s'accroissant de jour en jour, et jusqu'à l'évidence, elle en vint à faire déclarer au prône de son église que si quelqu'un reconnaissait être l'auteur de la chose et l'avouait, elle promettait de lui pardonner, et s'il le jugeait bon, de l'épouser. Un de ses valets de labourage, que cette proclamation avait enhardi, déclara alors qu'il l'avait trouvée un jour de fête, ayant tellement bu, endormi près du foyer si profondément et dans une posture si indécente, qu'il avait pu se servir d'elle sans même la réveiller. Ils sont mariés et vivent encore.
Et à la fin du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant, qui semble répondre à Montaigne, je pense que c'est nous qui reconstruisons tout cela, dans cette émission, Emmanuel Kant donne quelques avertissements aussi, disant que tout le monde ne peut pas se payer le luxe du relâchement festif. Écoutez-le.
Si on boit en société, c'est mal se conduire que de pousser l'intempérance jusqu'à l'obnubilation des sens, non seulement par égard pour le groupe avec lequel on s'entretient, mais aussi par estime de soi. De sortir en titubant ou d'un pas mal assuré, même seulement en balbutiant. Mais il y a beaucoup à dire pour atténuer le jugement qu'on porte sur une pareille inadvertance. La frontière de la maîtrise de soi peut être bien facilement omise ou franchie, car l'hôte veut que l'invité s'en aille pleinement satisfait par cette manifestation de la vie sociale. L'insouciance, et la témérité aussi, que produit l'ivresse, sont les sentiments trompeurs d'une multiplication de la force vitale. L'homme ivre ne sent pas les obstacles de la vie que la nature a sans cesse à surmonter, et sa faiblesse le rend heureux, parce que la nature fait en lui un effort réel pour restaurer la vie, par un accroissement progressif de ses forces. Les femmes, les gens d'église et les juifs ont coutume de ne pas s'enivrer, ou du moins ils évitent avec soin de le laisser paraître, parce qu'ils sont dans un état d'infériorité civique, et qu'ils doivent se tenir absolument sur la réserve, ce qui requiert une totale sobriété.
Montaigne puis Kant est élu par notre réalisateur Nicolas Berger. Nous sommes dans une série sur la fête et aujourd'hui notre épisode porte sur les lendemains de fête et la gueule de bois avec Véronique Naoum-Grapp et André Comte-Sponville qui en profitent pour dire chacun quelle est sa philosophie de la fête. Il y a un débat sous-jacent. André Comte-Sponville, est-ce que vous êtes d'accord avec Montaigne et Kant pour dire qu'il est prudent de ne pas trop se relâcher?
Oui, alors le texte de Montaigne, ça fait un peu froid dans le dos. Hein. C'était quelques siècles avant MeToo, c'est l'histoire d'un viol.
Avant Mazan.
Avant Mazan. Parce que c'est l'histoire d'un viol qui se termine bizarrement par un mariage. Mais voilà, ça veut dire, ben oui, c'est dangereux, spécialement pour les femmes. Hein. Je crois que c'est ce que vous disiez à l'instant, Géraldine, vous avez raison, mais c'est dangereux pour tout le monde. Combien de gamins sont morts parce qu'ils étaient montés sur la pile d'un pont avec une bouteille de bière. Mais il ne s'agit pas d'être contre la fête. Que les gens fassent la fête tant qu'ils veulent, et ça m'est arrivé de le faire. On parle des lendemains de fête. Moi, ce qui me touche en venant, j'y pensais, c'est la joie de retrouver la vraie vie. Voilà. On replonge dans le réel tel qu'il est. On arrête de se raconter des histoires. On arrête de boire démesurément, etc. Voilà, moi, c'est ça que j'aime. Ça ne m'empêche pas de faire la fête parfois. Et je reproche rien à ceux qui la font. Mais l'idée que la vie soit une fête, ça, c'est un mensonge plus grave. Ouais. Et moi, j'aime pas les gens qui passent leur temps à exagérer leur vie. À exagérer la vie, même à faire semblant. Je crois que vous avez fait une émission sur Dionysos chez Nietzsche. Moi, ça m'a toujours gonflé, son Dionysos. Je suis résolument du côté d'Apollon. Ériger une forme d'ivresse, tout ça me paraît cuculapraline au possible. C'est la même idée chez Baudelaire, vous savez, la formule fameuse dans les poèmes en prose, là. Enivrez-vous sans cesse, enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu, mais enivrez-vous. Mais non, moi, ce que j'aime chez Baudelaire, que j'adore par ailleurs, c'est la lucidité du spleen, c'est dire la vie telle qu'elle est. Arrêtons de faire semblant, sauf par moment, pour se détendre, ou parce que, comme dit Véronique, la vie sociale en a besoin. Je suis assez d'accord avec ça, d'ailleurs. On a besoin de moments de fête, souvenons-nous des Jeux Olympiques. Là, c'était le bon aspect. Les histoires autour de la Coupe du Monde de football, ça m'a laissé un peu plus perplexe, mais tant mieux si les Français, pour une fois, sont heureux d'être ensemble. Tout ça vaut mieux que la haine et le ressentiment. On est d'accord là-dessus. Mais, encore une fois, moi j'aime la lucidité, j'aime tout ce qu'on peut faire seul et à deux. On peut boire à deux, on ne peut pas faire la fête à deux. Et boire à deux, je trouve ça délicieux. Parce que j'aime effectivement cette légère ébriété, cette espèce de chaleur, de vivre. C'est l'insouciance et la témérité, comme disait Kant dans son texte. Inversement, les choses qu'on ne peut faire qu'en grand nombre, c'est vrai que ça me laisse plus perplexe, parce que je crois que dès qu'on est en foule, on oublie cette dimension de solitude et de relation. Parce qu'à deux, on est au plus fort de la relation. Voilà, moi j'ai le sentiment que dès qu'on est plus que deux, il ne peut plus rien se passer de vraiment important. il ne peut plus se passer que du dérisoire. La fête est dérisoire par définition.
Le dérisoire, effectivement, c'est peut-être l'enjeu assez profond en réalité de la fête, Véronique Naumgrapp.
Le dérisoire, c'est drôle comme adjectif pour la fête. Disons, pour moi, le lendemain de fête, c'est un miroir de la fête. C'est-à-dire, à quelle fête ? On a le lendemain qu'on mérite. La question que se pose celui qui se réveille, donc il a eu d'après un lourd sommeil, hein, il a dormi comme un égorgé, comme on dit dans les Balkans, le soulard qui a trop bu, et il se réveille, il dit, que s'est-il passé ? Donc, que s'est-il passé ? Et moi, je juge pas la fête, je constate qu'il y a des fêtes atroces. Tous les soirs au moment du génocide rwandais, les miliciens se saoulaient avec dans les endroits où ils avaient assassiné, trucidé leurs voisins. Ils se saoulaient et même on peut faire l'hypothèse que cette saoulerie créait un esprit de corps et consistait à faire un lessivage de l'éthique. Et c'est décrit dans d'autres génocides, la nécessaire saoulerie du soir des assassins, et y aurait beaucoup à dire là-dessus. Donc je suis pas à valoriser forcément, et le bizutage dans les grandes écoles qui sont des fêtes de moqueries cruelles. Donc on est un peu dans votre sujet d'hier.
Absolument.
Eh bien, sont festives notamment. Parce qu'il y a le rire, parce qu'il y a plusieurs rires. Il y a le rire de la moquerie, il y a le rire cruel, il y a le rire stigmatisant, et il y a la haine qui rend très heureux dans les matchs de foot. C'est tellement extraordinaire d'avoir des ennemis et d'avoir une haine contre le camp d'en face qu'on joue. On sait que c'est faux, on sait que ce sont les mêmes, mais on joue à les haïr et on peut même sérieusement leur casser la figure et les détester vraiment à force de jouer à les haïr. Donc, et l'alcool, évidemment, qui est un espèce de lessivage de l'intériorité, joue sa partie. De l'autre côté, je reprends mon jeune au sortir de l'enfance qui va faire sa première nuit blanche. Qu'est-ce qu'il va vivre ? Peut-être le lendemain, tout va changer pour lui. Pourquoi ? Ou bien quelqu'un, les sociologues ont croisé qui sont dans la vie ouvrière depuis l'âge de 13 ans, et puis un jour, ils sortent, ils font la fête, et puis ce troisième moment, ils sont sur la plage, il y a le ciel étoilé, et tout à coup, pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ? Et ce moment d'intense réflexion que l'ivresse a accru, puisque l'ivresse, en un premier temps, c'est accroître l'investissement du présent à tel point qu'on oublie l'avant et l'après. Donc c'est un investissement maximal d'intensité du présent. Et là, on peut être deux. Et là, ça peut être festif quand même. Et à ce moment-là, le lendemain, cet ouvrier qui a vécu ce moment, et il n'avait pas le temps avant puisqu'il était dans le monde du travail en permanence, sa vie a changé. Il va changer. Donc les lendemains sont le miroir de la fête, sont ce qu'on mérite et le type de quelle fête on a vécu ensemble. Et est-ce que ça a été calamiteux, honteux. Alors, il est évident que, pour des raisons, pour le fait FAIT, que la fête met en danger les hiérarchies sociales, il est évident que les populations... Alors, c'est extraordinaire, si mon prof François Héritier était là, il dirait, c'est extraordinaire, ceux qui sont l'interdit de boire sont des gens qui portent des jupes. Donc, le boire, c'est vraiment la masculinité qui se dresse, le verre en l'air, le qui trinque, etc., et l'homme fort, la virilité. Mais les femmes, les juifs, les curés, qui portent jupe, ils se mettent en danger. Les femmes,
c'est
on le sait.
De Kant, oui.
Voilà. Et le texte, les femmes, on le sait, dès qu'elles sont ivres, ça s'est interprété comme elles sont légères, donc il y a cette espèce d'effet de métonymie entre le féminin et la sexualité, une espèce d'attirance sémiologique entre les deux champs, calamiteuse, qui fait que ben, si elle est ivre, elle a dit oui à l'alcool, donc elle dira oui à tout. Bon, voilà. Et ça, c'est la question du féminin. Gros danger. Et surtout si elle est seule, etc. Et qu'elle s'endort et qu'elle roule sous la table. Deuxième type de danger, quelqu'un qui a une position sociale, le prêtre et tous les hauts gradés hiérarchiques, même je dirais, l'homme politique important, ces métiers dont la gravité et le sérieux fait partie de l'identité professionnelle attendue. Et donc, même, je dirais, le fait qu'on leur fait confiance parce qu'on les sent forts, etc. Si on les voit rouler sous la table parce qu'ils ont trop bu, ils sont cassés.
Ou on les aime encore plus.
Ou on les aime encore plus sous certaines conditions. Mais croyez-moi,
ce
serait extraordinaire. C'est dangereux. Et donc, ce moment-là de mise en danger des identités sociales, de déconstruction des identités sociales, ce moment-là, évidemment, est un moment qui qui a à voir avec la violence implicite et avec les agressivités. Et peut-être ça permet de les déplacer un peu. Je dis pas
la question de la cruauté qu'on a rencontrée chez Nietzsche. Et à mon avis, ça fait écho à ce que vous avez dit, André Comte-Sponville. Il y a une certaine sublimation de la cruauté dans certains moments festifs. Et nous n'avons pas, dans cette série, évité ces problèmes. Ils sont là. Et en parlant de Georges Bataille hier, nous avons fait de même. Mais moi, j'ai une question pour vous, André Comte-Sponville. Beaucoup de gens, en vérité, ne se sentent pas très bien dans les fêtes. Par exemple, beaucoup de gens n'aiment pas danser. Ils savent pas trop faire, ils n'ont peut-être pas appris, tout le monde n'a pas ça de manière innée en soi. Et on a parfois l'impression qu'il y a des gens qui sont doués pour ça, et beaucoup de gens pensent qu'ils ne le sont pas. Dans ce cas, je comprends très bien que le lendemain matin, on se dise « bon, c'est fini, ça va, là, maintenant c'est la vraie vie, je suis moins gauche dans la vraie vie que dans les moments festifs ». Mais alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous n'éprouvez pas parfois de l'envie au sens où, voilà, c'est la fête, il y a des gens super doués pour ça. C'est pas mon truc. J'aimerais quand même, j'aimerais bien savoir faire la fête.
Non, mais je sais faire la fête, à condition de boire un peu, parce qu'effectivement, il y a un degré de bêtise et de superficialité qu'il est difficile d'affronter sans alcool, parce qu'on s'ennuie vite. Dans une fête, celui qui ne boit pas du tout, il va vite s'ennuyer, parce que l'intelligence moyenne tend à décroître, les affects tendent au contraire à s'exalter. Quand on regarde ça froidement, c'est un peu tristounet, donc on boit quelques verres pour faire passer la chose, on y prend du plaisir. Mais encore une fois, je ne suis pas contre la fête. J'essaie de vous dire que, parce que l'émission porte sur les lendemains de fête, j'aime mieux les lendemains de fête que les veilles de fête. Voilà, dans cette période où on prépare les fêtes de Noël et de Nouvel An, qui m'ont toujours paru une époque très désagréable, j'ai hâte qu'on en ait fini. Voilà, vivement le 1er
et
janvier.
Vous ne vous dites pas, ce serait bien quand même si je savais faire ça sans me poser trop de questions et sans m'ennuyer trop vite.
Non, moi. Je préférerais être Mozart qu'être capable de faire la fête.
Ça, c'est une réponse.
Le samedi soir. Non, c'est ça. Parce que il s'agit pas de faire l'éloge de la lourdeur. Surtout pas. La légèreté vaut mieux que la lourdeur. Mais un peu de gravité. Faut pas confondre la gravité et la lourdeur.
Oui, oui. Hein. Entendu.
Voilà. Et donc, Mozart est merveilleux de légèreté et de gravité. Voilà. Il n'est jamais superficiel, si vous voulez. Et alors que dans la fête, il y a une espèce de superficialité qui se prend au sérieux. C'est la formule de Nietzsche au début du Gai Savoir. Nous sommes superficiels par profondeur.
Vous voyez, je savais que vous finiriez par citer Nietzsche, quand même.
On se citait ça, on était très contents. Je voyais de plus en plus la superficialité, de moins en moins la profondeur. Et en vérité, c'est l'un de mes conflits avec Nietzsche. Voilà, à force de célébrer l'apparence, la surface, on oublie que dans la mesure où nous sommes seuls, l'amour et la mort se rapprochent. La
ce qu'il savait très bien, lui qui était très malade, qui souffrait beaucoup, mais dont le oui à la vie était bouleversant.
La rythme dit quelque chose d'essentiel. Et moi, ce que je crois, c'est que ce qu'il y a de meilleur à vivre, ça se vit tout seul et à deux. En groupe, ou bien parfois passer par là, mais on ne pourra jamais dire que c'est l'essentiel de l'existence.
Alors maintenant, j'ai une question pour vous, Véronique Naumgrab. Est-ce qu'il y a à l'inverse des personnes qui sont très douées pour la fête, qui ne s'en sentent vraiment bien que là-dedans et qui fuient les lendemains, essayant de vivre dans une fête infinie, renonçant aux rythmes sociaux ordinaires, des gens que vous auriez suivis dans vos enquêtes? Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Que finalement c'est tragique et l'avenir n'est pas beau pour eux? Ou au contraire, donne-t-il une leçon de bonheur?
Là, il faudrait penser les choses en termes de situation. Donc, si on parle de soi et de son rapport à la fête, moi, par exemple, je m'ennuie horriblement. J'ai beaucoup de mal sans les quelques verres, etc.
Donc, vous êtes un peu comme André Comte-Sponville.
Oui, mais ça ne veut pas dire.
C'était pas évident, ça, pour tout le monde.
Oui, bien sûr, c'est pour ça que je voudrais. Mais ce qui se passe, c'est que, et c'est quelque chose qui s'inscrit dans les modes de vie d'une majorité de gens. C'est ça qui m'intéresse. Comment vivent les gens? Et donc, ce qui se passe, c'est que ce moment où on arrête de travailler, donc le soir tombe, où l'espace festif ouvre sa vacuité, et on est en groupe, c'est un moment où même où les conversations, les débats, l'humour, les blagues, après les déguisements, les inventions, ce n'est pas la surface et il y aura un fond de sérieux du sujet solitaire qui serait au fond de lui-même, soit seul, soit à deux, mais face à l'amour et la mort. Mais pendant ce moment où tout à coup rentre en interaction et en intensité, peut-être à cause de l'alcool, peut-être à cause de la danse, peut-être à cause du rire, qui est une déflagration intime qui ouvre toutes les portes. À ce moment-là, les gens peuvent avoir des discussions qu'ils n'auraient jamais eues. Et je cite ce livre que je trouve génial, de Christian Jacob sur les deipnosophistes. C'est quoi ? C'est Athénée de Nocratis, on est en plein Empire romain, grec de l'Empire romain, on est au IIe siècle. Et il fait un immense travail sur le lien entre le vin, le repas, la gaieté, l'ivresse et la discussion. Et les bibliothèques, et les livres. Depuis l'utilisation de l'espace festif pour la discussion, pour la réflexion, pour poser des questions. Et tout ce livre, il n'arrête pas de poser des questions. Mais pas seulement comment on cuit les choux, mais aussi quel sens à la vie et à la mort. Et ce moment de l'espace festif, on pose les grandes questions. Et surtout au moment de l'adolescence, qui est un grand moment où on sort du dedans et où vraiment dans le groupe, on s'ouvre aux problématiques collectives. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la mort? Pourquoi sommes-nous sur Terre? À ce moment-là et dans tous les milieux. C'est pas quelque chose qui est simplement lié aux gens qui vont dans les bibliothèques. Et donc ce moment de l'espace festif qui est en fait, qui après peut être dangereux, après au-delà des bandes pas de limite, après on appuie sur le champignon de la vitesse dans la voiture en un accident atroce, et donc je ne défends pas, mais si c'est tellement présent dans les modes de vie d'une majorité de gens et sur la planète entière et dans des mondes culturels et sociaux extrêmement différents, c'est bien que ça a un sens qui n'est pas seulement la surface de fausse et du dérisoire, et puis on revient à la réalité.
Et les grands
au moment de la fête, on peut rentrer dans la réalité.
Et ceux qui... Vous en parlez dans vos travaux de personnes qui n'arrêtent jamais, qui ne se couchent pas vraiment.
Pardon, j'ai pas répondu. Bien sûr.
Et ça, c'est un très fête, intéressant.
Le refus du matin, parce que il y a cette question de la nuit. C'est-à-dire que dans la nuit, vous avez le fêtard, il veut pas rentrer. C'est dans plein l'homme. Il veut pas rentrer. Elle l'attend dans son grand lit glacé. Encore un verre, dit-il, comme Lavilliers qui chante. L'homme, le vrai, le souffrant dans cette société horrible, qui n'est pas à la hauteur de son génie et de sa valeur. Il sort, il boit encore un verre, le dernier café, etc. Il veut pas rentrer. Et le matin, il est le matin. Parce que qu'est-ce que c'est le matin? C'est le retour. Le matin, c'est plat. Le matin, il faut faire son café, faire le ménage. Le matin, c'est très gai aussi, parce que ça peut être matinal merveilleux pour ceux qui s'élèvent le matin, pour aller bosser et pour une vie matinale, ce sont les heureux. Mais le souffrant, le malheureux, le nocturne qui habite la nuit, il est le matin parce que lui, il n'a pas de boulot, parce que lui, il ne va pas rentrer. Et le matin, c'est la vie normale chez soi du dedans. Il faut rentrer à la maison. La maison est dégueulasse, c'est la normalité
du
lundi. Le lundi matin, c'est un cauchemar. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils suppriment les matins. Ils dorment jusqu'à 4-5 heures. Et quand vous rentrez dans le monde de la nuit, il y a même des gens qui ont supprimé les matins de leur vie parce qu'ils ont trouvé un boulot dans le monde nocturne. Ils ne se réveillent que le soir, ils passent la nuit et là ils vivent et ils redorment jusqu'à 4 heures. Et quand l'adolescent qui se lève à 4 heures de l'après-midi, les parents sont épouvantés parce qu'ils suppriment le matin. Parce que le matin, il faut faire ce qu'il faut faire parce que le matin, c'est le moment des choses ennuyeuses qui, quand on les fait, comme le ménage, chose ennuyeuses, deviennent très divertissantes en fait.
Ah bon ?
En fait, quand on les fait, très, très divertissantes au sens de Pascal, pas très festives, mais très intéressantes à faire. Mais pour l'adolescent ou pour certains amoureux de la nuit, quitter la fête, c'est pas possible, et donc ils suppriment le matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Et ça, c'est vrai que ça arrive, oui, bien sûr.
Voilà. C'est une bonne idée de parler des matins. Je vais vous faire entendre un autre texte que tout le monde le connaît. C'est Cendrillon de Charles Perrault, toute fin du XVIIe siècle. C'est lu par Jean Rochefort. Vous savez, on parle toujours de Cendrillon parce que à un moment donné, après minuit, son carrosse devient citrouille et ça. Mais il y a une suite et une fin à Cendrillon. Et il y a un matin très joli où tout d'un coup la fête va continuer. Écoutez.
Le prince allait se retirer quand soudain, venant du grenier, il entendit des bruits, des sanglots, de légers galops. C'était Cendrillon, enfermé, qui pleurait. C'étaient les petites souris qui menaient grand tapage, poussaient des petits cris pour attirer davantage l'attention du voisinage. Qui est là-haut, madame? Et que sont ces sanglots? Montez cet escalier et ouvrez cette porte. Cendrillon apparut, vêtu de triste sorte. Ciel, je dois rêver. Est-ce vous ?
Oui, prince. Et pour bien le prouver, je me dois d'essayer sans tarder la pantoufle de verre que j'ai perdue hier dans le grand escalier.
À cet instant, dans un éclair de lumière, la fée Hélène, sa marraine, apparut. D'un coup, d'un seul de sa baguette, elle fit surgir la toilette dont Cendrillon était vêtu la veille. Le prince poussa un grand cri de joie et déclara qu'il allait sans tarder annoncer ses noces au roi. Et c'est ainsi, petits amis, que tout finit dans l'allégresse.
Ça, c'est un matin. Ça, c'est un matin où la robe ne disparaît pas, le carrosse non plus. Arrive le prince, la pantoufle de verre, tout marche, tout va bien. Et la vie est une fête. Et ça, je suis sûre, André Comte-Ponville, que vous avez beaucoup de choses à en dire.
Et c'est un conte. Non, mais je reviens sur l'action des matins, parce que vous me dites que j'aime les matins. En vérité, c'est vrai. J'ai répondu, j'ai des réveils un peu difficiles. Oui, parce que le réveil, on est encore à moitié dans le sommeil, on est fatigué, etc. Mais c'est vrai que les moments de la journée que je préfère, là, vous aviez raison, c'est le matin, en effet.
Parce et pourquoi
que, mais parce que tout commence, parce qu'on se met au travail, parce que c'est là, me semble-t-il, qu'on est le plus intelligent, parce que c'est là où on a envie de vivre. Je trouve qu'un lever de soleil, c'est tellement plus beau et poétique qu'un coucher de soleil. Donc moi, bien loin de fuir les matins, comme les gens qu'évoquait Véronique, je cultive plutôt les matins. Je crois que c'est un vers des Loirs, je crois. Nous aimons les matins, les voici radieux. Voilà. Oui, j'aime la lumière des matins, j'aime la vie qui recommence, et tout ça est délicieux. Encore une fois, ça n'interdit pas de faire la fête de temps en temps, mais ça serait dommage, au nom de la fête, d'oublier le quotidien. Voilà.
Mais je crois que
Véronique... À que la vie est quotidienne, oui. C'est le poème de Jules Laforgue.
Oui,
à
oui.
Que la vie est quotidienne, et du plus loin qu'on s'en souvienne, comme on fut piètre et sans génie. Alors, pendant la fête, on peut croire qu'on a du génie. Ce que raconte le philosophe Alain, dans un de ses textes, il était rue d'Ulm, il élève à l'école... Il était saoul, il écrit un texte qu'il juge génial, et le lendemain matin, dégrisé, il le lit, il le trouve nul. Il dit, j'ai arrêté de boire ce jour-là. Moi, il m'arrive de boire de temps en temps, et même parfois un peu plus que de raison, mais de grâce, ne mettons pas l'ivresse plus haut que la lucidité, ne mettons pas la fête plus haut que le quotidien. La vie, elle est quotidienne par définition, et c'est ça, me semble-t-il, que chaque matin nous rappelle.
Nous ne sommes pas égaux, je crois, nous ne sommes pas les mêmes face à tout cela. Et Véronique Naoum-Grabe, je suis sûre que vous direz que les matins, vous l'avez dit déjà un peu auparavant, c'est aussi les travaux et les jours, c'est-à-dire le retour du même, parce qu'il y a du même dans les journées, il y a du différent, il y a de l'invention, mais il y a du même. Et alors que la nuit, est-ce que les gens qui font la fête toutes les nuits éprouvent le même dans la nuit, avec l'ennui que produit ce même ?
Alors, c'est une très bonne question, parce que ça pointe le fait que la fête est un moment, en fait, c'est pas un objet sémiologique stabilisé, ça s'inscrit uniquement comme c'est un objet mélodique qui s'inscrit uniquement dans son évolution temporelle, exactement comme un repas en train de se faire, comme les choses ou une promenade en train de se faire. Donc c'est très difficile de là. Et donc ce moment, évidemment, s'oppose imaginairement à son symétrique inverse qui serait un lundi matin de novembre, dans une banlieue de Berlin des années 56, en plein stalinisme. Voilà. Le béton est gris, la vie est morne, il va falloir faire la queue. Les robinets ne marchent pas. L'ennui des choses déglinguées, l'ennui d'un décor autour du corps, avec des ronces, à moins que ce soit du barbelé rouillé. Cette chose difficile dans les univers, les situations difficiles économiquement, politiquement, imaginairement, parce que l'ennui peut peser, il peut être mortel. Et donc, ça, c'est l'inverse symétrique, et c'est vécu, hélas, dans beaucoup de situations, de ce moment imaginairement son contraire, une douce nuit, un coucher de soleil somptueux sur la mer. Je refuse de choisir entre poire et fromage, entre coucher de soleil et lever du soleil. C'était la mère de Colette qui l'emmenait voir à 4 heures du matin, les levers de soleil. C'est un souvenir formidable. C'est tout aussi sublime l'un que l'autre. Mais disons que, imaginairement, l'espace festif, c'est une espèce de et quand le dit, le poids de la vie se soulève un peu avec les premiers verres, la première ivresse qui est le meilleur moment. Donc quelque chose de pesant, de lourd, de quotidien, du lundi matin de novembre, quand la fête arrive, c'est cette chose-là qui très légèrement, peut-être 3 mm, se soulève un peu et entraîne une respiration, une autre façon d'être, et surtout prendre le temps. Et tout à coup, on ne sait plus trop ce qui va se passer, puisqu'on est autour avec, mettons, des amis, ou le groupe festif, quel qu'il soit. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ensemble?
Et le 4 heures du matin, tous ensemble, les mêmes, tous les jours, peut-être, toutes les nuits.
Il y a le quotidien,
voilà. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose de glauque?
C'est extrêmement glauque et bizarre. C'est une autre planète. Il faut que les ethnologues étudient. Mais il y a un point central dans l'espace festif. C'est ce que le sociologue Jacques Katz appelle y mettre du sien ou pas. S'il y a une grande fête, le 1er mai, qui était en plein pays stalinien et que tout le monde y va et fait semblant oui on est au paradis alors qu'ils ont la certitude que l'enfer règne et l'ennui est tellement pesant que c'est avilissant pour tout le monde et c'est ça que produit les dictatures, alors on peut pas dire que c'est extrêmement festif. Et même s'il faut danser tous ensemble en disant youpi on est heureux alors qu'on est très malheureux, ça c'est une catastrophe. Mais si tout à coup l'aventure de la fête se laisse comme le coucher de soleil doucement qui change de lumière, et là la nuance est un abîme, tout change chaque minute, chaque millimètre, tout change tout le temps. C'est ça le problème festif. Et donc petit à petit voilà un air nouveau, une brise, un parfum, un arôme, une nostalgie, la fête commence à envahir l'intimité du sujet qui sinon n'a pas le temps, qui sinon dans son quotidien que je respecte et la vie est quotidienne et que même moi personnellement j'adore la vie quotidienne. Donc s'il faut dire parler du JE, chose que
je voudrais juste laisser la dernière minute à André Comte-Sponville parce qu'il faut qu'il réagisse à cet ennui.
Et disons l'ennui
que vous ne voulez pas mettre vraiment dans l'aventure festive. Or peut-être que la fête comporte plus d'ennui que cela.
Trop de fêtes habituelles, des fêtes obligées produisent de l'ennui, et un ennui atroce, puisque l'ennui arrive au cœur de ce qui devrait vous divertir. L'ennui à l'usine, d'accord, mais l'ennui à la fête, c'est désespérant.
Vous êtes d'accord, André Comte-Sponville? Vous pensez que l'ennui des fêtes est clair?
Je n'ai pas peur de l'ennui. L'ennui, c'est la vérité à l'état pur. Là encore, c'est ce qu'écrit Blaise Pascal. Condition de l'homme, ennui, inconstance, inquiétude. Voilà. Pour moi, ça, c'est la vérité. Et c'est ça que la fête essaie de nous faire oublier. Et le lendemain de fête, on redécouvre que Pascal a raison. Condition de l'homme, ennui, inconstance, inquiétude. Et c'est pas triste, au contraire, on y prend plaisir, on aime ça, on va se battre, on va se mettre au boulot, on va faire l'amour, on va se faire des amis, on va parler. Parce que la fête, c'est pas un lieu de conversation, j'adore les conversations intimes. Moi, mes premières nuits blanches d'adolescent, c'était pas des fêtes à 50, c'était des tête-à-tête, maximum 3 ou 4. À discuter à 2 ou à 3, à 4 dans l'intimité. Voilà. J'aime trop la conversation et la relation pour avoir beaucoup le goût des fêtes.
And what costumes shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? A hand-me-down dress from who knows where to all tomorrow's parties? Where will she go? What shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door.
La chanson s'imposait. All Tomorrow's Parties, les lendemains de toutes les fêtes, je ne sais pas comment il faut dire, de Velvet Underground et Nico, une chanson de 1966. Merci beaucoup Véronique Naumgrapp, André Comte-Sponville. Les références de vos travaux sont sur notre site. Voici maintenant la chronique du jeudi, vous savez qu'elle s'intitule Fil Philo. En ce moment, elle vous est proposée par Laurence de Villers qui se demande aujourd'hui pourquoi on se fait des films, et elle répond en s'aidant de Platon. Écoutez.
Le Fil Philo.
Pourquoi se fait-on des films ? Pourquoi préférons-nous nos illusions et parfois même nos mensonges à la réalité ? La vérité est-elle si difficile à accepter ? Je vais vous livrer la réponse définitive de Platon. Vous vous souvenez peut-être de ce film de Woody Allen, La rose pourpre du Caire, où une femme tombe amoureuse d'un homme qui est en réalité le personnage de son film préféré. « Je viens de rencontrer un homme merveilleux », dit-elle. « Fictif, mais on ne peut pas tout avoir ». C'est cela, l'illusion propre au cinéma, nous faire vivre le temps d'une séance dans un monde imaginaire qui nous paraît parfaitement réel. Cette salle obscure, avec son écran où sont projetés vos désirs et vos rêves, c'est la caverne de Platon. Le philosophe imagine en effet un dispositif où des prisonniers d'une caverne ne verraient sur les murs que l'ombre portée d'hommes et de femmes du monde réel, qu'ils ne verraient jamais en vrai. Cela n'empêche pas ces prisonniers de prendre les ombres pour la réalité, ces fantômes d'hommes et de femmes pour des êtres réels. Ils sont dans l'illusion et le mensonge, mais ils y croient dur comme fer. Pour eux, c'est la réalité, c'est la vérité. Ils sont prisonniers de leurs croyances et de leurs opinions, et ils ne le savent pas. Ils refusent même de le savoir. Ne jetez pas la pierre à ces prisonniers de la caverne de Platon. Vous comme moi, nous prenons souvent nos certitudes pour la réalité. Nous confondons souvent une simple opinion, sans fondement, avec la vérité. Nous ne croyons pas une chose parce qu'elle est vraie, mais c'est parce que nous y croyons que nous la tenons pour vraie. La croyance remplace le jugement critique. L'idéologie, les partis pris et même le complotisme ou la rumeur procèdent de ce mécanisme où l'avis personnel, les affirmations d'un groupe, d'un clan, tiennent lieu de vérité et où les convictions masquent la réalité. Qu'arrive-t-il lorsque l'un de ses prisonniers s'échappe et se rend compte qu'il s'était trompé, que ce qu'il prenait pour des faits avérés n'était qu'une illusion, une simple opinion qu'un examen un peu plus attentif aurait pu facilement démentir ? Pensez-vous qu'une fois revenu parmi ses anciens compagnons de cellule, pardon, de caverne, il serait acclamé comme un libérateur, qu'on le remercierait pour avoir enfin ouvert les yeux de tous et révélé la vérité ? Pas du tout, vous répond Platon. Personne ne l'écoutera. Personne ne voudra de la vérité. On lui tournera le dos et chacun retournera à ses croyances, à ses illusions mensongères. Le drame, c'est en effet qu'on préfère se faire des films, vivre sans penser par soi-même, sans s'interroger, sans chercher à creuser un peu. Car la vérité, et c'est cela qui fait toute la difficulté, n'est pas toujours spectaculaire, n'est pas toujours faite pour nous plaire. C'est pour cela qu'est née la philosophie, pour y voir clair, pour nous aider à quitter la caverne de nos préjugés et de nos opinions toutes faites, pour regarder la réalité en face, les yeux dans les yeux. Alors, que préférez-vous ? Vivre parmi les ombres, prisonnier de ce qu'on vous dit de penser, ou apprendre à savourer le goût particulier qu'a une pensée bien à soi ? Que préférez-vous ? Le mensonge ou la vérité ? L'illusion ? Ou la liberté.
Merci Laurence de Villers. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Nassim El Kabli, Corinne Amar et Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.